Ce matin, la suite, un nouveau journal dans tout juste 17 minutes et le point sur ce qu'on sait de l'attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël hier soir en Allemagne. Le profil de l'assaillant sème la confusion sur ses possibles intentions. On appelle Pascal Thibault à Berlin. À la une également du prochain journal, les soupçons de la République démocratique du Congo à l'égard de l'Ouganda. Après l'échec du sommet de Luanda avec le Rwanda le week-end dernier, l'Ouganda accusé en juillet par un groupe d'experts de l'ONU de soutenir les rebelles du M23, le pays avait démenti. La question refait surface, on en parlera avec Florence Maurice. À suivre d'ici là, la revue de la presse internationale avec Catherine Potet et on retournera en Allemagne. Et puis le retrait de la CDAO du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les tentatives de l'organisation pour retenir les trois juntes dans son giron, c'est le regard de la semaine de Jean-Baptiste Placa. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Julien.
En football, la dernière ligne droite vers le CHAN 2025 est entamée avec les matchs allés du deuxième et dernier tour des éliminatoires.
Oui, encore 15 places à prendre en fin de semaine prochaine si on met de côté notamment les trois pays hôtes, Kenya, Tanzanie et Ouganda, ainsi que le Maroc, qualifié d'office après le désistement des autres nations de la zone Afrique du Nord. Les sélections exemptées de premier tour entrent en action et sont bien entrées dans le cas de la Guinée, victorieuse hier de la Guinée-Bissau 4-1 à l'issue d'un match délocalisé à Abidjan. 6 nouvelles rencontres au programme aujourd'hui, notamment Tchad-RDC pour l'attribution d'un des 3 tickets dévolus à la zone Afrique centrale où ces qualifications ont lieu en fait sur ce seul second tour. Là encore, ça se passe à Abidjan avec des léopards à prime, peu expérimentés et pas très au fait des réelles qualités des Tchadiens, faute d'informations récentes sur leur compte, rappelle leur sélectionneur Otis Ngoma Kondi.
Cette équipe tchadienne, on l'a rencontrée il y a 2 ans. Mais les matchs ne se ressemblaient pas, surtout les époques. Je sais qu'ils ont eu des stages, ils ont eu, je crois, 1 ou 2 matchs amicaux, mais on a du mal à voir des images. Donc, on va découvrir cette équipe sur le terrain. Mais nous, notre ambition, c'est de se qualifier avec nos moyens, nos forces et nos faiblesses ici et là. C'est une nouvelle génération, on est en reconstruction au niveau de cette équipe. La plupart des garçons qui ont joué les derniers champs ne sont plus là, on a radé que 4 joueurs. Donc c'est tout, ce sont des jeunes, vous voyez même son visage, c'est des gamins aujourd'hui qui sont en train de découvrir en même temps leur premier match.
Des propos recueillis par Olga Massongou à Kinshasa, Tchad RDC, 17h temps universel.
Et demain, la Côte d'Ivoire retrouvera le Burkina Faso pour un match qui a un air de déjà vu.
Oui, remontons 2 ans en arrière. Septembre 2022, les Ivoiriens barrent in extremis la route du CHAN au Burkinabé en s'imposant au tir au but lors du dernier tour éliminatoire. Ça ne leur déplairait évidemment pas de récidiver et ils se préparent activement à cela. Reportage de Molamine Sissavané. Ok.
Les 25 éléphants ivoiriens retenus pour cette double confrontation sont à leur avant-dernier entraînement ce vendredi soir à Abidjan.
Quand on a fait une préparation qu'on pense bien ou pas, et puis l'important c'est que dimanche on soit prêt pour l'événement.
Aux manettes, Romaric Ndri Kofi, nommé il y a tout juste 1 mois. En raison du calendrier, il n'a pu faire la préparation qu'il espérait.
Au niveau de l'aspect physique, on n'est pas pressif, on essaie de gérer la charge comme on peut. Au niveau de l'aspect mental, on sait que ça va être très difficile. Donc on essaie de préparer les joueurs par rapport à cet aspect de force, de combat, d'agressivité et de l'intensité.
Parmi ces joueurs, le défenseur Landry Zouzou.
On ne connaît pas forcément l'adversaire, mais on a des amis là-bas avec qui on a joué en club avant, ici en Côte d'Ivoire. On essaie de voir comment est-ce qu'il se comporte et puis travailler et agir. Notre objectif, c'est de prendre l'avantage ici à Abidjan et terminer le travail à Bamako.
Valider la qualification à Bamako au match retour et aller au CHAN pour prier comme la sélection A à la CAN. C'est ça l'idée, mais le coach Romaric veut y aller par étapes.
On espère faire comme Emes et son staff. Ça passe d'abord par le match de dimanche. Il ne faut pas regarder plus loin, il faut regarder juste dimanche. Pour faire le match, il faut faire un pas vers la qualif et après on ira à Bamako.
Romaric Ndri et ce joueur avaient en tout cas à leur côté Emers Faye, coach de la sélection A, pour sans doute servir d'exemple et distiller des zones positives. Maud Amin Sissavané, Abidjan, RFI.
Et pour finir, un petit crochet par le basket et la NBA pour noter le grand match de Joel Embiid cette nuit avec les Sixers de Philadelphie, vainqueur à domicile de Charlotte Hornets 108-98 dans la conférence Est. 34 points, 9 passes décisives et 5 rebonds pour le pivot star muni d'un masque de protection après une fracture du sinus la semaine dernière.
Merci Christophe Diremzian, à tout à l'heure. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale avec vous et l'attaque sur le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne.
Une attaque dont la presse allemande se fait largement l'écho. Die Welt tout d'abord, qui en quelques mots rappelle les faits. C'est un homme à bord d'une voiture de location qui a foncé sur la foule du marché de Noël de Magdebourg. Deux personnes au moins, dont un enfant, ont été tuées et 60 autres blessées. Le profil de l'agresseur est inhabituel. Il est médecin saoudien et vit en Allemagne depuis 2006. Il a obtenu le statut de réfugié en 2016, explique Die Welt. Mais surtout, c'est un militant anti-islam. Il considérait les policiers allemands comme des moteurs de l'islamisme et faisait même campagne pour l'AfD, l'extrême droite allemande. Die Welt a consulté le profil de l'agresseur sur les réseaux sociaux. Précisons que selon certaines de ses publications les plus récentes, il se sentait persécuté. Le Süddeutsche Zeitung ajoute de son côté que l'homme a 50 ans. Il est donc médecin et serait spécialisé dans la psychiatrie et la psychothérapie. On suppose, ajoute le quotidien allemand, qu'il a agi seul et qu'il n'y a plus de danger.
En France à présent, le procès de l'assassinat de Samuel Paty s'est terminé tard hier soir. Les quatre principaux accusés ont été reconnus coupables.
Les deux amis de l'assassin, Abdullah Kantzarov, qui avait été tué par la police en 2020, ont été condamnés à 16 ans de réclusion criminelle, relate Le Monde. Il s'agit de Naïm Boudaoud, 22 ans, et Azim Epsirkanov, 23 ans. Quant aux deux hommes auteurs de la campagne de haine contre le professeur Brahim Chnina et Abdelhakim Sifraoui, ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroristes et condamnés à 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Les deux premiers avaient accompagné le tueur la veille de l'attentat pour acheter un couteau qui n'est toutefois pas celui qui a servi à décapiter le professeur. Mais aux yeux du tribunal, ils avaient conscience de la radicalité du tueur et de sa volonté de s'attaquer à l'intégrité d'un tiers. Quant aux deux autres hommes, les juges ont estimé qu'ils avaient attisé la colère et la haine du tueur et contribué à son passage à l'acte. Des juges qui ont prononcé des peines sévères, estime Libération. Dans la salle d'audience, raconte le quotidien français, les cris, les applaudissements et les pleurs ont émaillé le verdict rendu par la cour d'assises. Les avocats de la défense ont parlé de décision avant tout politique. La cour, assure-t-il, a cédé face aux sirènes de l'opinion. Gaëlle Paty, l'une des sœurs de Samuel Paty, a elle exprimé son soulagement. « Je suis émue d'avoir entendu le mot coupable », a-t-elle dit. « Est-ce que cela répare ? Je ne dirai pas ça, mais c'est ce que je voulais entendre. »
Enfin, Catherine, au Japon, la presse rend compte de la libération de Paul Watson.
Paul Watson, le militant anti-chasse à la baleine libéré, arrive en France, titre le Japan Times, rappelant qu'il a passé 5 mois en détention au Groenland en raison d'une demande d'extradition du Japon. Demande qui portait sur un affrontement avec des baleiniers en 2010 et qui a finalement été rejetée par les autorités danoises. Selon le Japan Times, le président français Emmanuel Macron a fait pression sur les autorités danoises pour qu'elles n'extradent pas le militant qui a demandé la nationalité française. Le quotidien japonais relate également les premières heures de liberté de Paul Watson que l'on voit souriant à son arrivée à l'aéroport de Roissy à Paris, arrivé accompagné des bravos lancés par ses supporters venus l'attendre. Une seule allusion est faite aux autorités japonaises qui voulaient mettre Paul Watson sous les verrous. Le gouvernement, nous dit le Japan Times, a exprimé sa consternation après la libération de Paul Watson.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquelroem.
Alors que la CEDEAO tente de retenir dans ses rangs le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le chef de la junte au pouvoir à Niamey a rejeté cette semaine toute main tendue, insistant sur le caractère irréversible de leur décision. Est-ce à dire que les perdants dans cette rupture sont finalement ceux qui demeurent dans la communauté ?
Il n'y aura pas de gagnants et les plus gros perdants seront bien les peuples des États qui claquent la porte. C'est justement parce que de telles décisions sont graves de conséquences qu'elles devraient demeurer le privilège de leaders ayant l'onction du suffrage universel et pas de putschistes qui assimilent leur orgueil personnel à l'honneur de leur patrie. Entre ces États sahéliens et leurs voisins immédiats, l'interdépendance est telle que les considérations d'amour propre ne devraient pas y prévaloir. On ne quitte pas une organisation parce qu'elle vous applique les textes qui la fondent. Après tout, il y a des règles dans toute communauté. Même la mafia a son code d'honneur que l'on n'enfreint pas impunément. Certes, pour avoir trop souvent appliqué à la carte ses propres règles et principes, la CEDEAO s'était beaucoup discréditée aux yeux des populations ces dernières années. Mais cette rupture est une diversion qui rejaillira sur tous les citoyens de ces États et leur diaspora importante dans la sous-région.
Ces trois États annoncent dispenser de visa les ressortissants des pays de la CEDEAO, libres d'entrer, de circuler et même de s'établir dans l'espace de leur confédération. Peut-on parler d'une preuve de bonne volonté ?
C'est surtout une manœuvre grotesque qui trahit l'inconséquence de leur démarche. Pourquoi n'applique-t-il donc pas ces exemptions à toute l'Afrique ? Une concession aussi ciblée vise surtout à quémander par la force une réciprocité. Ils anticipent la réprobation de leurs concitoyens qui ne manqueront pas de leur reprocher cette rupture lorsqu'elle commencera à leur compliquer singulièrement l'existence. Alors, plutôt que d'assumer leur méprise, ces dirigeants accuseront les voisins d'en vouloir à leur peuple. Lorsque l'on se saisit arbitrairement du destin d'un peuple, la décence élémentaire commande de préserver ses intérêts réels et cette décision n'est pas dans l'intérêt de ces peuples. Les discours rejetant tout leur malheur sur des ennemis extérieurs, des traites internes ou de soi-disant renégats ne suffiront pas à la justifier. Ils lasseront d'autant que ces militaires s'avèrent incapables d'améliorer la sécurité et les conditions de vie de leur peuple. Plus de 4 ans après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, près de 3 ans après le renversement de Roch-Marc Christian Kabore et bientôt 1 an et demi après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum, ni les Maliens, ni les Burkinabés et encore moins les Nigériens ne vous diront qu'ils sont un peuple heureux, en sécurité, à l'abri des privations et de la vie chère. Les nouveaux riches en treillis que l'on voit parader dans les capitales ne sont pas le meilleur indicateur du bonheur de ces peuples. Ceux qui ont cru à ces coups d'État réalisent avoir fait un mauvais calcul qui ne fera qu'empirer après la rupture avec la CEDEAO.
Et pourtant, la CEDEAO, vous l'avez souvent dit ici, Jean-Baptiste, la CEDEAO est discréditée.
Sans aucun doute, et pour espérer redorer un blason durablement terni, elle devra se réinventer. Mais hormis le fait géographique, le seul dénominateur commun entre ces trois pays enclavés est d'être dirigée par des putschistes, un peu comme une alliance de parias. Elle aurait été plus crédible si elle émanait de dirigeants dûment élus. Et puis, lorsque Rawlings prenait le pouvoir au Ghana en 1979 puis en 1981, ses concitoyens avaient une idée claire de ce qu'ils pensaient et ce dont ils rêvaient pour son peuple. Sankara, en 1983, avait un discours d'autant plus clair qu'il n'était emprunté à personne. Mais ici, on se demande quelle peut bien être la vision des putschistes d'aujourd'hui. On n'entend que des tâtonnements dans leurs discours truffés d'extraits picorés chez Rawlings, Sankara ou même Sékou Touré. Et c'est bien insuffisant pour des peuples qui ont déjà donné et que l'on voudrait à présent persuader du bonheur de vivre coupé de leur environnement naturel.
Jean-Baptiste Placard, merci beaucoup. RFI bientôt 6h en temps universel et le journal dans 4 minutes. D'abord un peu de musique avec le DJ producteur Vailom. Il est indien, il est installé à New Delhi et le voici sur le titre Dilbar où il revisite en douceur un classique de la musique indienne composé par deux maîtres de la musique de film, Majrooh Sultanpuri et Erdi Burman.
दिल से प्यारे दिल की सुनता जा रे दिल भर दिल से प्यारे दिल की सुनता जा रे सारी दुनिया हारी हमसे हम तुझे दिल हारे सारी दुनिया हारी हमसे हम तुझे दिल हारे तेरी नैनवाले तेरी नैनवाले तेरी नैनवाले तेरी नैनवाले
par dil se pyare dil ki sunta jare dil par dil se pyare dil ki sunta jare sari duniya hari humse hum tujh pe darare sari duniya hari humse hum tujh pe darare
titre Dilbar par le DJ indien Vailom. C'est dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr.
RFI Matin.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous donnons la parole à 5 jeunes journalistes africains spécialisés dans l'économie. Basés à Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou et Kinshasa, ils nous font revivre 2024. Les bouleversements au Sénégal, la crise entre l'AES et la CDAO, les défis miniers et énergétiques.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
C'est un beau bébé de 430 kilos, divinité, constitution, âme et esprit sacré du peuple ébrié. Son nom, c'est Didi Ayokoué, plus connu sous le nom de tambour parleur. Volé par l'administration coloniale en 1916, il s'apprête à faire un retour en Côte d'Ivoire après un exil centenaire.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.